Voilà, nous poursuivons notre série en cours avec une nouvelle question de Jésus ce matin. Question bien évidemment que nous trouvons dans les évangiles, une question sur le sujet fondamental de la prière dans la vie du disciple. Si la prière est vitale, fondamentale dans notre marche par la foi, nous serons sans doute tous d'accord pour dire qu'elle est aussi tout sauf évidente. On en a peut-être eu une illustration pendant le moment de prière qui vient de se passer, alors on a peut-être prié dans nos cœurs, je ne sais pas, mais c'est peut-être une illustration de cette difficulté à prier quand nous sommes seuls, à prier quand nous sommes ensemble. Quand je parle de cette difficulté de la prière, je ne pense pas ici à la prière qui peut jaillir spontanément de notre cœur quand nous sommes confrontés à une difficulté. Celle-là, elle vient assez naturellement. Quand nous sommes face à une épreuve, à une urgence, il est facile de se tourner vers Dieu. Je parle ici de la prière comme la respiration quotidienne régulière de notre âme dans notre relation à Dieu. La prière comme la respiration quotidienne régulière de notre âme dans notre relation à Dieu, et cette respiration quotidienne régulière qui vient faire écho à cette exhortation que nous trouvons dans l'Écriture à prier sans cesse. En plus de cette difficulté à vivre une vie de prière conséquente et régulière, il y a aussi toutes les incompréhensions et toutes les désillusions qui entourent la pratique de la prière. Des incompréhensions et des désillusions qui peuvent finir par nous éloigner de Dieu. Et je ne parle pas ici des non-chrétiens, je parle ici même des chrétiens, qui peut nous amener dans une impasse, qui peut nous amener au découragement devant la pratique de la prière. À quoi bon prier, entendons-nous parfois, puisque Dieu ne répond pas toujours, puisque Dieu ne donne pas toujours ce qu'il a promis. Je devrais dire ce que je pense qu'il a promis. Des incompréhensions et des désillusions qui viennent souvent d'une mauvaise compréhension de certaines paroles bibliques. Et celles que nous allons considérer ce matin, celles au pluriel, en font partie. Alors je vous propose sans plus tarder d'en faire maintenant la lecture. Je vais lire dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 7, des versets 7 à 11, et je lis dans la Nouvelle Bible Second. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Si son fils lui demande du pain, quel est parmi vous celui qui lui donnera une pierre? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, tout en étant mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Quelle est notre question du jour? Il y en a en réalité deux. Elles se trouvent au verset 9 et au verset 10. Si son fils lui demande du pain, quel est parmi vous celui qui lui donnera une pierre? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Notre question fait partie d'un petit enseignement
de Jésus sur la prière. Un enseignement avec une promesse répétée avec trois verbes différents, qui sont ensuite repris une deuxième fois. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et puis le verset 8 reprend ces trois affirmations. Je disais en commençant que des incompréhensions et des désillusions sur la prière venaient souvent de paroles bibliques mal comprises. Et ici, je pense que c'est assez souvent le cas quand les versets 7 et 8, les versets qui contiennent donc cette promesse, sont déconnectés du reste de ce texte. On le dit autrement quand le texte est sorti de son contexte. Ou alors, c'est peut-être plus parlant, quand on utilise des paroles de Dieu comme des paroles magiques. Ça revient à ça, une parole sortie de son contexte. En effet, en apparence, nous avons ici une parole, une promesse générale sur la prière qui semble dire que quoi que je demande, je le recevrai. Si on prend juste les versets 7 et 8, je pense que c'est la compréhension assez naturelle à laquelle on va arriver. Et si je comprends les choses ainsi, alors en réalité, je fais de la prière une espèce de lampe d'Aladin qu'il suffit de frotter pour obtenir ce que je demande et ce que je désire. Et je fais de Dieu une espèce de génie céleste qui va être au service de mes désirs, de mes envies et de mes ambitions. Alors la question que je pose est celle-ci, est-ce vraiment là le sens de ce texte? Est-ce que c'est vraiment là ce que Jésus a voulu dire à ses disciples ce jour-là? Personnellement, je ne le pense pas, ça je pense que vous l'aviez déjà compris, et je vous propose de cheminer maintenant dans ce passage pour essayer d'en saisir les contours et le sens véritable. Et ça nous amène à notre deuxième point, qu'est-ce qui est vraiment dit et promis dans notre passage? Commençons par rappeler que nous sommes dans le sermon sur la montagne où Jésus enseigne ses disciples sur la réalité du royaume de Dieu et sur la vie du disciple dans le royaume de Dieu. Et c'est ainsi que les promesses qui sont faites dans le sermon sur la montagne ne sont pas des promesses faites à toute l'humanité, à tous les hommes, mais elles sont faites à celles et ceux qui sont disciples de Jésus-Christ, à celles et ceux qui ont Dieu pour Père. Et nous reviendrons sur ce point un peu plus tard. Cette remise très rapide en contexte nous permet de restreindre d'emblée la portée de notre texte pour dire que Dieu n'est pas un distributeur automatique de tous les désirs de tous les hommes qui pourraient s'adresser à lui. Notre texte ne dit pas cela. Il parle de la prière des disciples de Jésus. Si Dieu n'est pas le distributeur automatique de tous nos désirs, comme le pensent certains et comme certains l'espèrent, qu'est-ce qui nous est vraiment promis ici? Alors avant de parler de promesses, il faut parler d'invitation. Parce que notre passage est pour le disciple du Seigneur une formidable invitation à prier. Un puissant encouragement à le faire. Et avec les perspectives qui sont ouvertes au verset 7 et 8, pourquoi nous priverions-nous d'une telle bénédiction? Il est évident, me semble-t-il, à partir d'un texte comme le nôtre, ce matin, que Dieu désire que nous prions. Ça me paraît une évidence. Dieu désire que nous nous adressions à lui. Dieu désire que nous lui demandions des choses. Une réalité qui nous rappelle et nous renvoie à d'autres textes bibliques. Certains ont déjà été cités ce matin, comme Philippiens 4, par exemple, où nous sommes invités à faire connaître à Dieu nos demandes. Nous sommes invités à faire connaître à Dieu nos demandes. J'en dis pas plus pour l'instant. Et puis, on pourrait citer d'autres textes, 1 Pierre 5, où nous sommes par exemple exhortés à nous décharger sur lui de tous nos soucis. Mais ce n'est pas tout. S'il est évident, me semble-t-il, dans notre passage, que Dieu nous invite, que Dieu désire que nous nous adressions à lui et qu'il nous y invite, il est tout aussi évident à mes yeux que Dieu prend plaisir à exaucer nos prières, que Dieu prend plaisir à exaucer ses enfants. Il aime donner de bonnes choses à ses enfants. C'est ce que nous comprenons dans ce texte. C'est ce que Jacques, dans son épître, va souligner d'une autre manière quand il dit que tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ça m'amène à dire ceci. Nous ne dérangeons pas Dieu quand nous prions. Nous ne dérangeons pas Dieu quand nous venons à lui avec nos besoins, avec nos demandes. C'est une première chose importante. Il nous invite à le faire. Il prend plaisir à nous écouter et il prend plaisir à nous exaucer et à nous donner de bonnes choses. Mais si Dieu nous invite à le prier, encore faut-il que nous prenions conscience de notre besoin de le faire. Et c'est ici sans doute une des grandes difficultés de la pratique régulière de la prière. Parce que par nature, vous et moi, nous avons tendance à vouloir y arriver par nous-mêmes. Et nous avons tendance à croire que nous pouvons y arriver par nous-mêmes. Mais la réalité, c'est que notre nature pécheresse, marquée par le péché, est profondément, viscéralement indépendante vis-à-vis de Dieu. Et c'est d'ailleurs cette indépendance, le cœur même du péché, de notre péché. Souvenons-nous que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont succombé à la tentation du serpent qui leur disait qu'ils deviendraient comme des dieux. Et c'est ainsi que nos premiers parents se sont coupés de Dieu par leur désobéissance. Et c'est ainsi que depuis l'homme pécheur vit dans cet éloignement de Dieu, dans cet exil, dans cet état d'indépendance, dans cet état de suffisance vis-à-vis de Dieu. Et quand je deviens disciple de Jésus, je ne cesse pas d'être humain et je ne perds pas ma nature pécheresse. Pas encore, ça viendra. L'apôtre Jean entrouvre un petit peu le rideau quand il dit que c'est quand nous le verrons tel qu'il est que nous serons, que nous deviendrons semblables à lui. Ce jour-là, ça en sera terminé de notre nature pécheresse. Mais pour l'heure, nous devons encore faire avec. Et c'est la raison pour laquelle, pour entrer dans cette prière régulière, comme la respiration de notre âme, il faut que nous prenions conscience de cette réalité, de cette tendance, de cette caractéristique structurante de notre nature pécheresse, de cette vulnérabilité, de notre besoin de Dieu, tout simplement. et du fait que je ne peux pas y arriver par moi-même. Je ne peux pas vivre dans la volonté de Dieu jour après jour en m'appuyant sur mes propres forces. Vous l'avez sans doute comme moi déjà essayé et vous avez comme moi fait le constat que ça ne marche pas. C'est une réalité. Alors je sais que ce genre de discours, certains parleront peut-être même de misérabilisme ici, n'est sans doute pas très tendance à l'heure où on a plutôt tendance à valoriser l'épanouissement personnel, la réalisation de soi, la recherche de tout le potentiel qui est en nous, etc. Si une prise de conscience de mon besoin de Dieu à chaque instant de chaque jour est nécessaire, une autre prise de conscience l'est tout aussi. Et il s'agit de la prise de conscience que certaines choses dans ma vie de disciple ne sont pas automatiques, mais elles me sont données par Dieu, mon Père, en réponse à mes prières. Et si je désire ces choses dans ma vie, si je désire les vivre, si je désire les connaître, alors je dois les demander à Dieu. Et nous verrons un peu plus tard de quoi il s'agit. La réalité que je suis en train de souligner ici, c'est que Dieu ne force jamais personne, pas même ses enfants. Mais il se plaît à donner à celui qu'il demande, mais il ne donne jamais contre son gré. Alors la promesse de notre passage est merveilleuse, mais elle ne suffit pas par elle-même. Pour recevoir ce que Dieu veut me donner, il faut que je prenne conscience de mes besoins, il faut que je prenne conscience que c'est par la prière et la prière seule que Dieu me les donnera, et il faut que je les demande à Dieu. Alors nous progressons et nous arrivons maintenant à la promesse de notre texte et à notre question. Notons premièrement que la promesse est faite par le biais de trois verbes, demander, chercher et frapper. Des verbes que certains comprennent comme traduisant une progression, une intensification dans la demande, dans la prière. Demander étant le plus faible, chercher un peu plus, avec un peu plus d'intention, et puis frapper, traduisant peut-être le plus fort des trois. Et d'autres vont comprendre que les trois termes sont équivalents, sont des synonymes, demander, chercher, frapper, étant interchangeables. Personnellement, je pense qu'il faut comprendre ce que Jésus dit au verset 7 et 8 comme de la répétition pour accentuer le fait que nous sommes invités à demander et pour accentuer le fait que Dieu exauce, que Dieu s'engage à exaucer celui qui lui fait cette demande. Une triple répétition fois deux pour dire la certitude de ce qui est promis. Notons deuxièmement que ces trois verbes sont dans le grec à l'impératif présent, ce qui veut dire qu'il parle ici d'une action continue. En d'autres mots, il parle de persistance, il parle de persévérance. Ce qui veut dire que la prière dont il est question ici n'est pas celle que l'on fait une fois en passant, et puis ensuite on passe à autre chose. Ce n'est pas de cela dont il s'agit ici. Il s'agit ici de la prière que l'on fait parce que l'on est convaincu, ça nous renvoie à la prise de conscience dont je parlais, parce qu'on est convaincu que ce que l'on demande est vital pour nous, est fondamental, est absolument nécessaire pour notre marche avec le Seigneur. Le point le plus important ne sais pas si je suis allé trop loin. Non, c'est bon. Le point le plus important, sans doute, pour bien comprendre la promesse qui est faite au verset 7 et 8, c'est de comprendre qu'elle est conditionnelle. Elle est soumise à condition. Ça, bien évidemment, on ne s'en rend pas compte si on isole le verset 7 et 8 des versets 9, 10 et 11. Alors, quelles sont ces conditions ? J'en vois au moins deux. La première, on en a déjà parlé, c'est qu'il faut demander. Et oui, si nous ne demandons pas, nous ne recevrons pas. C'est celui qui demande qui reçoit. C'est celui qui cherche qui trouve. C'est celui qui frappe à qui on ouvre. C'est une évidence dans notre passage. Jacques va le dire dans un autre contexte, il va le dire très clairement aussi. Alors c'est vraiment un autre contexte dans lequel je ne rentre pas, mais il dit « Vous désirez, vous ne possédez pas, rempli de passions jalouses, vous assassinez et vous ne pouvez rien obtenir, vous multipliez les querelles et les conflits, mais vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » C'est clair ? Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et puis il ajoute au verset suivant ceci, « Si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de pouvoir dépenser pour vos plaisirs. » Il y a donc ici deux problèmes que Jacques souligne, liés à notre vie de prière. Le premier, c'est de ne pas demander. Et ne pas demander, c'est ne pas recevoir. Et cette difficulté, elle est liée en particulier, comme nous l'avons déjà dit, au fait que notre nature pécheresse, notre chair, notre vieil homme, toutes ces expressions sont synonymes dans le Nouveau Testament, est foncièrement indépendant de Dieu ou indépendante de Dieu. Et le deuxième problème qui est évoqué par Jacques ici, c'est celui de demander mal, avec de mauvaises motivations. Et demander mal, dit-il, c'est aussi ne pas recevoir. Et cette difficulté, elle est elle aussi liée à notre nature pécheresse, qui cherche toujours notre nature pécheresse, c'est la chair, bien évidemment, dans le Nouveau Testament, très souvent, la chair qui cherche toujours des moyens pour satisfaire ses désirs. La première condition à la promesse de notre texte, c'est donc qu'il faut demander pour recevoir. Demander non pas pour informer Dieu de nos besoins, il les connaît, il sait toutes choses, mais pour lui dire notre besoin de lui, pour lui dire notre confiance, pour lui dire notre dépendance et pour recevoir de lui ce qu'il désire nous donner pour notre bien. Et puis la deuxième condition, c'est ce que nous avions évoqué au tout début, à savoir qu'il faut que Dieu soit mon Père. C'est fondamental. Notre texte dit précisément, c'est votre Père qui est dans les cieux, qui donnera à ceux qui le demandent, qui le lui demandent. Mais alors peut-être que vous allez me dire, mais Dieu n'est-il pas le Père de tous les hommes ? Et je vous répondrai, au sens de créateur des hommes, il faut dire oui. Il est le créateur et il est le Père de tous les hommes dans ce sens-là. Mais au sens de notre texte et au sens du Nouveau Testament, c'est-à-dire de Père par Jésus-Christ, nous devons répondre non. Dieu n'est pas le Père de tous les hommes. Il est le Père de ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors comment Dieu devient-il mon Père ? Le Père céleste dont il est question dans les Écritures, ou dit autrement, comment devient-on enfant de Dieu ? On peut répondre de bien des manières. Je réponds avec le prologue de l'Évangile de Jean, qui dit ceci, la parole, c'est-à-dire Jésus, était dans le monde et le monde est venu à elle, à l'existence par elle, et pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueillie. Cependant, à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole, c'est-à-dire le Christ, le Verbe incarné, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en elle, elle a permis de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine, c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. C'est donc par la nouvelle naissance que l'on devient enfant de Dieu et que Dieu devient notre Père, dans le sens de notre texte. Avant que quelqu'un ne mette sa foi en Jésus, en Dieu par Jésus, cette personne a pour père le diable. C'est dur à entendre, mais c'est bien la conclusion à laquelle il faut arriver. Jésus le dira d'ailleurs aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Ils ont pour père le diable parce que leur vie est soumise au péché. Mais Dieu, dans sa grâce, par l'œuvre de Jésus et au moyen de la foi, change tout cela et il nous adopte dans sa famille. Nous recevons alors son esprit et une vie nouvelle. Son esprit, dit Paul aux Romains, qui est un esprit d'adoption et qui nous permet d'appeler Dieu Père. C'est par l'esprit que nous pouvons dire que Dieu est notre Père, avec du sens, bien évidemment. Et Paul ajoute même dans Romains 8 que nous pouvons appeler Dieu Abba. Alors Abba, ce n'est pas un groupe de musique, là, c'est une expression araméenne, alors nous, ça ne nous parle pas. Mais à l'époque, c'est comme ça que le petit enfant appelait son père. Et certainement que la traduction la plus juste, c'est « cher père », peut-être « cher papa », « cher père ». Une expression qui dit l'intimité de la relation, qui dit aussi la liberté de cette relation. Et pour nous, vis-à-vis de Dieu, une expression qui parle de l'immense privilège qu'est celui du disciple, de l'enfant de Dieu qui peut appeler Dieu son Père. Une expression, nous le savons, que Jésus aimait utiliser quand il s'adressait à son Père. Alors oui, sans le Christ, nous étions loin de Dieu, étrangers, ennemis de Dieu, mais par la foi et grâce à Jésus, Dieu fait de nous ses enfants, concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu, dit Paul au chapitre 2 des Éphésiens. Et donc, je reviens à notre texte, la deuxième condition à la promesse de notre texte, c'est qu'il faut que celui qui demande ce dont il est question ici ait Dieu pour Père, puisque c'est le Père qui va donner, qui va répondre. Il faut le redire dans le sens que nous venons d'exposer, Dieu n'est pas le Père de tous les hommes, mais le Père de celles et ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Très bien. Alors il faut maintenant quand même qu'on arrive par nouer la gerbe, tout doucement. Alors qu'est-ce qu'il est promis ? Qu'est-ce qui est promis ici aux disciples de Jésus ? Qu'est-ce qui est promis à l'enfant de Dieu ? Est-ce que Jésus m'invite ici à tout demander à Dieu ? En tout cas, à quoi est-ce que je peux raisonnablement m'attendre devant ce passage ? Encore une précision, c'est un peu les petites poupées là qui s'emboîtent. Hein. Encore une petite précision, mais on arrive. Pour dire qu'il y a des choses que Dieu donne à tous les hommes, et ce sont des choses qui ne dépendent pas de la prière. Est-ce que nous en sommes conscients ? Jésus y fait allusion quelques versets auparavant, au chapitre 5, verset 45, quand il dit que Dieu fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons, et il fait pleuvoir sur ceux qui font sa volonté et sur ceux qui ne la font pas. Il y a ce qu'on appelle la grâce commune de Dieu, la grâce pour tous les hommes. Et aucun des bienfaits de cette grâce, la pluie, le soleil, les moissons qui en dépendent, la vie, etc., aucun des bienfaits de cette grâce ne dépend de la prière ou ne dépend de la reconnaissance que je pourrais avoir envers Dieu, mon Créateur. La réalité, c'est que la pluie viendra sur le champ de l'agriculteur, qu'il soit chrétien ou pas, qu'il ait prié ou pas, de la même manière. J'espère que je ne vous bouscule pas trop avec ça. Et donc, tout ça pour dire qu'il n'est pas question ici, dans notre passage, de ces choses-là, de tout ce qui dépend de la grâce commune de Dieu, donc pour tous les hommes. Ce qui est promis dans notre texte, en réalité, c'est ce qui va découler directement de ma filialité à Dieu, de ma relation à Dieu, mon Père. C'est de cela dont il est question. Ce sont les choses que Dieu veut me donner et va me donner parce qu'il est mon Père. Et parce que j'ai besoin de ces choses pour vivre dans sa volonté, pour vivre comme son enfant. Et ces choses dans notre texte sont appelées de bonnes choses au verset 11. C'est plutôt vague, c'est plutôt général. Et c'est ici qu'il faut dire un mot sur la petite parabole de ce passage qui est utilisée par Jésus, dans laquelle se trouve notre question. Une parabole où Jésus va contraster ce que font les pères humains avec ce que Dieu le Père fait pour ses enfants. Et ainsi, Jésus souligne que bien que mauvais, nous sommes mauvais au sens que nous sommes enclins au mal, bien que mauvais, nous donnons de bonnes choses à nos enfants. Je pense que ça, nous serons tous d'accord avec ça. Aucun père humain digne de ce nom, bien évidemment, ne donnerait quelque chose de mauvais, de quelque chose d'inutile, quelque chose de préjudiciable à son enfant qui lui demande à manger, à son enfant qui lui demande quelque chose dont il a besoin, à son enfant qui dépend de lui. C'est vraiment ce que dit ce texte. Si son fils lui demande du pain, quel est parmi vous celui qui lui donnera une pierre? Bien évidemment, personne. Ou bien s'il demande un pansement, lui donnera-t-il un serpent? Mais non, bien évidemment, personne ne ferait ça. Si donc vous, tout en étant mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, comprenez, qui est parfait et qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Eh bien, dit Jésus, si nous qui sommes mauvais, nous pouvons donner de bonnes choses, alors imaginez un petit peu Dieu. Dieu qui, lui, bien évidemment, est totalement bon, parfait, est-ce que lui ne donnera pas de bonnes choses à ses enfants si nous qui sommes mauvais, nous savons donner de bonnes choses aux nôtres? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, que même si je demande quelque chose de mauvais, parce que je pense que c'est bon pour moi, mais je le demande, mais en réalité c'est mauvais, mais je ne le sais pas, eh bien Dieu ne me l'accordera pas. Dieu ne me l'accordera pas. Et Dieu me dira non. Et j'en suis profondément reconnaissant. Heureusement qu'il en est ainsi. Heureusement que Dieu ne me donnera jamais quelque chose de mauvais. Vous imaginez? Heureusement que Dieu ne s'engage pas ici à donner tout ce que nous demandons. Vous imaginez la catastrophe? Enfin, je ne sais pas, peut-être que comme moi, vous vous êtes déjà rendu compte, après coup, que heureusement que Dieu n'a pas donné ce que vous aviez demandé. On a peut-être tous fait ce constat-là. On priait pour quelque chose, convaincu que c'était bon, que c'était la volonté de Dieu, et puis ensuite on s'est rendu compte que ce n'était absolument pas ça. Et on dit « Merci Seigneur d'avoir dit non. Merci Seigneur parce que jamais tu ne me donneras quelque chose de mauvais. » C'est merveilleux quand même, cette réalité. À l'inverse des pères humains que nous sommes, faillibles, malgré notre désir de bien faire, nous pouvons mal faire. Dieu, lui, ne se trompe jamais et ne nous donnera jamais quelque chose de mauvais. Parce que si c'était le cas, si quand je demande quelque chose de mauvais, Dieu pouvait me le donner, ben mes amis, j'oserais plus prier. Je n'oserais plus prier de peur de demander quelque chose de mauvais et de le recevoir. Quelle grâce de savoir que Dieu ne me donnera que ce qui est bon, que ce qui est bon pour moi. Et ça m'enlève un poids immense des épaules, le poids de cette peur de se tromper qui serait là si Dieu pouvait dire oui aux demandes insensées qui parfois franchissent mes lèvres. Alors que sont les bonnes choses que Dieu veut nous donner? Maintenant j'arrête de vous faire languir et on y arrive. Je pense que ces bonnes choses sont celles qui nous permettent de vivre dans le royaume de Dieu. Je pense que ces bonnes choses, c'est ce que Pierre dit au début de sa deuxième épître, c'est tout ce qui contribue à la vie et à la piété et qui nous a été donné en Jésus. On peut le dire autrement, je pense que ces bonnes choses, ce sont toutes ces choses du royaume de Dieu que nous devons rechercher en priorité. Nous connaissons bien ce passage. Ce passage qui dit d'ailleurs que le reste dont nous avons besoin, le manger, le boire, le vêtement, Dieu sait que nous en avons besoin et nous n'avons même pas besoin de le lui demander. Ce sont ceux, dit le texte, ce sont les gens de toutes les nations, c'est-à-dire les païens qui recherchent ces choses. Nous, nous savons que Dieu le sait. Nous n'avons pas besoin de lui demander. Ce que nous avons besoin de lui demander, ce sont les choses du royaume de Dieu. Et nous devons les rechercher en priorité. Et toutes les autres choses dont il a parlé nous seront données de surcroît, par-dessus, en abondance. Quelles sont ces bonnes choses ? Ce sont donc toutes ces choses qui nous font vivre dans la volonté de Dieu, qui vont nous faire marcher dans les sentiers de la justice, qui vont nous faire grandir en Dieu, qui vont nous faire toujours plus ressembler à Christ. Alors on peut en nommer quelques-unes, le pardon de nos péchés. C'était quand même pas une évidence que Dieu nous pardonne à chaque fois que nous lui demandons pardon, mais demandez et vous recevrez. À chaque fois que je demande pardon à Dieu, j'ai l'assurance qu'il me pardonnera et qu'il me purifiera de toutes mes iniquités. La sainteté, un cœur pur, un esprit bien disposé, l'humilité pour dépendre de Dieu, la foi pour avancer avec confiance, l'espérance pour avancer malgré les circonstances ou quelles que soient les circonstances, le fruit de l'esprit, l'amour, bien évidemment, pour Dieu et pour les autres, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et puis on pourrait ajouter la plénitude de l'esprit. Et la liste n'est pas exhaustive. Pourquoi la plénitude de l'esprit? Parce qu'en réalité, quand nous regardons au texte parallèle, le même texte que celui que nous étudions ce matin, dans l'évangile de Luc, Jésus ne parle pas de bonnes choses. Qu'est-ce qu'il dit? Luc, hop. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce que la diapo 24, elle n'y est pas? Elle a sauté, c'est celle-là? Ah ben si, c'est bon, pardon. Voilà. Alors je ne relis pas tout, hein, c'est le même texte. Demandez, vous recevrez, etc. Et à la fin, au verset 13, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, sauf que ce n'est pas Matthieu 6, c'est ce qui m'a induit en erreur, hein, c'est Luc 11. La référence, à combien plus forte raison le Père qui est au ciel donnera-t-il l'Esprit Saint ? Donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? En d'autres mots, ces bonnes choses, c'est en réalité tout ce que le Saint-Esprit veut produire en nous par la vie nouvelle qu'il nous a donnée. Et c'est certainement pour cela que Jésus le dit ici. Et toutes ces bonnes choses se résument ou peuvent se résumer par le don de l'Esprit dans notre vie. Il me semble donc que ce qui est en vue ici dans notre passage avec notre question et cette formidable promesse, ce sont les bénédictions spirituelles qui sont en Jésus-Christ. C'est comme ça que l'Épître aux Éphésiens commence. Nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tout est là pour nous. Encore faut-il vouloir en vivre. Encore faut-il le demander à Dieu. Nous avons été bénis et Dieu promet de donner ses bénédictions à celle ou celui qui les lui demande, avec sérieux, avec le désir de les obtenir, avec persévérance. Alors, chers amis, permettez-moi d'être un petit peu direct maintenant. Je m'inclus, bien évidemment, dans cette interpellation, mais je pose la question, où en êtes-vous, où en sommes-nous dans notre marche avec le Seigneur? Où en êtes-vous dans la sanctification? Est-ce que vous marchez de progrès en progrès, comme nous pouvons le lire dans les Éphésiens? Et ce matin, j'espère qu'il est évident, incontournable pour chacun de nous qu'il n'y aura pas de progrès. Il n'y aura pas de progrès dans ma vie spirituelle à moins que je m'applique à demander à Dieu ces choses que nous avons énumérées ce matin. C'est peut-être pour ça que nous stagnons si souvent dans notre vie chrétienne. Il n'y aura pas de progrès dans ma vie spirituelle, à moins que je ne fasse de ces progrès à faire une priorité de ma vie et de ma vie de prière. Dieu désire donner à ses enfants tout ce qui est en Christ, tout, tout ce que le Christ a acquis pour nous par son obéissance et son sacrifice parfait. Est-ce que c'est là aussi mon désir ? C'est vraiment ça la question. Est-ce que c'est là aussi mon désir ? Si c'est le cas, alors je peux les demander à Dieu. Qui me les donnera ? C'est sa promesse dans notre texte. Qui me les donnera ? C'est une certitude. C'est Jésus qui l'a promis. Alors bien sûr, il faut quand même aussi dire que ces bénédictions que nous recevrons seront toujours mêlées avec notre nature pécheresse, ce qui complique quand même un peu les choses. Mais peut-être que le désir n'est pas là, dans votre cœur, n'est pas vraiment là, ou n'est pas assez là. Alors, il y a quand même de l'espoir pour nous, quand nous sommes dans cette phase-là, parce que nous pouvons demander à Dieu de créer ce désir dans notre cœur. C'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Nous pouvons lui demander de mettre en nous la soif de lui. Nous pouvons lui demander de mettre en nous la soif de vivre dans sa volonté. Nous pouvons lui demander de mettre en nous la soif de marcher de progrès en progrès. Une chose me semble évidente ce matin, c'est que je n'ai aucune excuse. Nous n'avons aucune excuse ou aucune raison valable de ne pas progresser dans notre marche avec le Seigneur. Parce qu'il a tout provisionné pour nous en Jésus. Il désire nous donner toutes ses bénédictions. Il attend que nous venions à lui et que nous en fassions une priorité dans notre vie. Amen.